Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir donc pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue.
Mesdames et messieurs, bonjour.
C'est ainsi qu'il débutait son journal. Tous les jours à 13h, après 32 ans passés dans le poste, Jean-Pierre Pernaut a donc décidé de tirer sa révérence. Il abandonnera son fauteuil, dit-il, à la fin de l'année. C'est une page qui se tourne et on en parlera bien sûr avec les grandes voix qui nous raconteront les secrets de sa longévité. Notre invité ce soir à 18h20, comment éviter le crash du secteur aérien? Des milliers d'emplois sont menacés, l'avenir d'Air France KLM est également en jeu, dit-on. On posera la question à l'ancien PDG du groupe, Alexandre de Juniac. Il est aujourd'hui président de l'association internationale du secteur. Et puis entre 19h et 20h, c'est le Club des idées d'Europe Soir, votre nouveau rendez-vous pour comprendre le monde qui change. Ce soir, faut-il avoir peur des anciens djihadistes qui sortent en ce moment de prison? 43 cette année, 60 l'an prochain et ça continue en 2022. Avons-nous les moyens de les surveiller et si oui, comment? On en débat ce soir avec nos invités. Voilà pour le programme de ces deux heures. D'abord, c'est l'info avec vous, Carole Ferry. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de travailler et je ne vois pas comment des inspecteurs peuvent conclure avant cette agence sur les effets éventuels de la 5G.
La 5G qui sera bientôt une réalité, elle est au cœur d'un désaccord entre l'Élysée et les écologistes.
Quel impact sur la santé? Quelles conséquences sur l'environnement? Un rapport sur toutes ces questions vient d'être remis au gouvernement. On vous en détaille le contenu dans quelques secondes.
Les départs volontaires chez Airbus ne suffiront pas à traverser la crise. Inquiétude des salariés après l'annonce de leur PDG.
Une très lourde peine pour le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 2 ans de prison à Alger.
En Algérie, il est devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse. Reporters sans frontières se mobilisent en ce moment même à Paris. Nous serons sur place.
Les bons chiffres de la sécurité routière pour le mois d'août, mais pas pour les cyclistes dont le nombre de morts, nous le verrons, progresse.
Enfin, la Bourse de Paris a terminé ce soir en légère hausse de 0,32% à 5067 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa, un peu plus nuageux demain, Anissa.
Oui, ça concerne principalement les régions montagneuses avec même des orages demain après-midi. Il fait toujours chaud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On en entend parler depuis des années. Elle fera bientôt partie de notre quotidien. La 5G, une 4G puissance 10 qui permettra de regarder des vidéos à très haut débit, de télécharger des films en quelques minutes. Bref, ne pas y aller, ce serait le retour à la lampe à huile et au modèle Amish, selon Emmanuel Macron.
Une déclaration qui fait enrager les 70 élus qui réclament un moratoire sur son déploiement. On en a déjà parlé ici même. Le temps d'étudier l'impact, disent-ils, sur la santé ou sur l'environnement.
Et justement, nous allons faire le point sur toutes ces questions avec vous. Clément Le Saffre, vous êtes le spécialiste des nouvelles technologies pour Europe 1. Un rapport commandé cet été par le gouvernement a été remis aujourd'hui. Que dit-il?
Il dit trois choses. La première, c'est que la 5G est une technologie dont on pourra difficilement se passer avec l'explosion du trafic Internet. Les réseaux 4G seront saturés d'ici 2 ans. Il faut donc passer à l'étape d'après. Deuxième point, la France est en retard. Elle fait partie des 5 pays sur les 26 étudiés dans le rapport qui n'ont pas encore lancé d'offres commerciales de 5G. Nos voisins sont partis et nous sommes encore sur la ligne de départ. Enfin, le rapport assure que les ondes ne présentent pas de danger pour la santé, du moins dans l'immédiat, car la 5G passera par des fréquences qu'on connaît bien et qui n'ont jamais posé de problème. En revanche, il faudra des études plus poussé, dit le rapport, pour analyser les effets des fréquences plus élevées qui seront utilisées à partir de 2024.
Alors on l'a dit, il y a aussi les opposants. Restez avec nous, Clément. On va écouter la réaction de Stéphane Kerschkoff. Il est délégué général de l'ONG Agir pour l'environnement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas convaincu par ce rapport.
Un rapport d'inspection curieux qui arrive à point nommé, qui prend le contre-pied des agences qui travaillent sur le sujet. L'Agence nationale des fréquences qui, aujourd'hui, a mené des expérimentations sur la 5G qui démontre une augmentation de l'exposition liée à l'arrivée de la 5G. Quant aux impacts sanitaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de travailler et je ne vois pas comment des inspecteurs peuvent conclure avant cette agence sur les effets éventuels de la 5G.
La polémique repart de plus belle, Clément Le Saffre. Alors qui croire ?
Eh bien, dans ce dossier, c'est un peu compliqué. Ce que dit Stéphane Kerschkoff est juste. Il y a bien des études sanitaires spécifiques en cours en France en ce moment. Les premières conclusions sont attendues dans les prochains mois. Elles viendront en fait compléter le rapport publié ce matin qui lui est fait par les inspections, les administrations. Et ce rapport reste quand même solide hein, dans le sens où il s'appuie sur des expériences en conditions réelles à l'étranger dans des pays où la 5G est déjà une réalité. Par exemple, en Corée du Sud, qui est le pays le plus avancé dans ce domaine, dans le centre-ville de Séoul, l'exposition aux ondes est équivalente à 2% de la norme acceptable. Pour le gouvernement, c'est donc l'ultime feu vert. À Bercy, on le martèle, Hors de question de faire un moratoire, il n'y a pas de contre-indication majeure à l'heure actuelle et on a déjà pris beaucoup trop de retard.
Merci Clément Le Saff pour cet éclairage. La crise économique liée au Covid, on en voit chaque jour les effets. C'est au tour d'Airbus. Son PDG Guillaume Faury prévient « Les départs volontaires ne suffiront pas à atteindre les 15 000 suppressions de postes nécessaires à traverser la crise ». Que connaît le secteur de l'aéronautique.
Alors concrètement, en France, c'est 5000 postes qui sont concernés par le plan de départ volontaire. Y aura-t-il des départs contraints et si oui, combien ?
Autant de questions qui tournent en boucle dans la tête des salariés de Toulouse. Benjamin Péter.
Oui, et ce mail de Guillaume Faury adressé à tous les salariés n'a pas vraiment permis d'y répondre. Pire, il a ravivé les inquiétudes. Dans ce courrier, le PDG explique que la crise sera plus profonde et plus longue que prévu. Et dans le dernier paragraphe, il ajoute qu'il est peu probable que les départs volontaires suffiront. Incompréhensible pour Lancelot qui travaille sur la 320.
On nous parle de licenciement, de baisse de trafic, crise plus profonde qu'espérée. Nous, sur le 320, ce qu'on voit surtout, c'est la charge de travail, elle est là, on travaille, on n'a pas de jours chômés dans la semaine. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. Voilà, on parle de licenciement, nous, on ne comprend pas. Et nous, on aimerait bien savoir, c'est bah, demain, qu'est-ce qui va se passer demain.
3000 salariés ont déjà indiqué qu'ils réfléchissaient à quitter l'entreprise volontairement. Alors pour Florent Velletti, de la CFTC, cette annonce du PDG est prématurée.
C'est vrai que c'est assez violent. Les salariés ont pris un coup de massue derrière la tête. Nous, notre objectif, ça reste de faire zéro départ contraint. Et là, clairement, notre patron nous dit que ça ne suffira pas. Nous, dans l'esprit de négociation, c'est qu'on doit chercher des solutions tous ensemble. Et là, on a l'impression que, ben, bon, fatalement, on ne va pas avoir le choix, donc il va falloir le faire. Ça, on ne peut pas s'en contenter de cette position.
D'autant que les syndicats attendent également beaucoup de l'accord sur l'activité partielle de longue durée, le fameux dispositif du gouvernement qui devrait permettre de sauver 1300 à 1500 emplois.
Merci Benjamin Péter, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Les laboratoires commencent à craquer, file d'attente, heures supplémentaires, colère des candidats aux tests. Rajoutez à cela une prime Covid jugée insuffisante, les employés de 20 laboratoires biofusion du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et du Lot sont en grève aujourd'hui. Seuls les tests urgents sont réalisés.
Des nouvelles de Valéry Giscard d'Estaing, nous l'évoquions hier. L'ancien président de la République, hospitalisé à Paris, va mieux, âgé de 94 ans. Il souffre d'une légère infection pulmonaire, mais pas du coronavirus, affirment ses proches.
L'institutrice jugée pour avoir donné une crêpe à un élève allergique au lait a été condamnée cet après-midi à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal de Villefranche-sur-Saône. L'enfant était décédé. Des regrets, j'en ai tous les jours, je me sens tellement coupable, a-t-elle déclaré à la barre.
Paris qui se mobilise pour Khaled Drareni, ce journaliste algérien a été condamné aujourd'hui en appel à 2 ans de prison à Alger.
Il avait été arrêté après avoir couvert les manifestations étudiantes en mars dernier à Alger.
Il avait également critiqué sur Facebook la corruption et l'argent, disait-il, du système politique.
Il est devenu un symbole pour la liberté de la presse en Algérie, liberté défendue en ce moment même donc par l'association Reporters sans frontières dans le 3e arrondissement de Paris. Mathieu Bock, vous êtes sur place. Un portrait de Khaled Drareni a été déployé sur le mur de la mairie.
Oui, une bâche sur laquelle a été imprimée une photo du journaliste où on le voit porté par la foule pendant une manifestation à Alger. Khaled Drareni, qui a longtemps été le correspondant d'Europe 1 en Algérie. Alors pendant ce rassemblement de soutien qui compte pour le moment quelques dizaines de personnes, la mairie de Paris va prendre la parole. TV5 Monde aussi, l'un des employeurs du journaliste algérien. Et vendredi, c'est la ville de Lyon qui accrochera à son tour un portrait de Khaled Drareni sur le mur de la mairie. Des soutiens précieux pour Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières, organisation dont Khaled est le représentant en Algérie.
C'est évidemment un signe très positif et c'est un signal qui, j'espère, sera reçu en Algérie. Parce qu'il y a un enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre au pouvoir algérien que cette stratégie de la cocotte minute, qui consiste à vouloir mettre, en éteignant la couverture médiatique, un mouvement populaire dans une cocotte minute et à fermer le couvercle, c'est une stratégie dangereuse, c'est une stratégie explosive et c'est une stratégie qui finalement sape la légitimité du régime.
Alors si les soutiens se multiplient en France, en Algérie évidemment, mais aussi en Tunisie ou aux États-Unis, les avocats de Khaled Drareni préparent déjà la riposte en Algérie puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient se pourvoir en cassation.
Merci Mathieu Bock, vous étiez en direct de la mairie du 3e arrondissement de Paris.
Paris justement, dont la mairie a été mise en examen après le drame de l'explosion de la rue de Trévise, c'était en janvier 2019.
Même chose pour le syndic de l'immeuble, leur responsabilité a été mise en cause dans un rapport d'experts rendu au printemps dernier. Cette explosion au gaz, je vous le rappelle, avait fait 4 morts et plus de 60 blessés.
Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
18h10, la suite de votre journal avec Carole Ferry. Il semblerait que ce soit un effet plutôt positif, celui-ci, du coronavirus. Il y a eu moins de morts cet été sur les routes de France.
19% de moins qu'en août dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre ces chiffres en perspective, Romain Oquet ?
Alors déjà, attention, ce n'est pas le nombre d'accidents qui a diminué en août. Ce chiffre reste quasi stable. La bonne nouvelle concerne le nombre de morts, autrement dit, la gravité de ces accidents. Alors, certes, cet été, beaucoup de vacanciers sont restés en France, mais ils sont probablement partis moins loin de chez eux et ont fait moins de kilomètres que d'habitude, analyse Marie Gauthier-Melleret, déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Les Français sont sans doute partis un peu moins longtemps parce qu'ils avaient dû prendre des congés pendant le confinement. Du coup, ils sont restés plus en ville où les accidents sont moins graves parce que la vitesse est plus faible et donc on a tout autant d'accidents, mais ils sont moins souvent mortels.
L'autre explication concerne les touristes étrangers, beaucoup moins nombreux sur nos autoroutes cet été. Les Hollandais, les Anglais, les Belges ont privilégié le nord de la France, moins de kilomètres là aussi et donc moins d'accidents liés à la fatigue en fin de parcours. En revanche, un indicateur est en hausse par rapport à l'année dernière, le nombre de piétons et de cyclistes tués dans un accident en août. La conséquence, selon les autorités, de l'explosion du nombre de vélos dans nos rues et sur nos routes depuis la fin du confinement.
Il s'est installé à la table des Français pendant un tiers de siècle. À 70 ans, Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il quittait le Trésor de TF1. Il avait succédé à Yves Mourousy en 1988.
Oui, ça ne rajeunit pas, ça, 1988, Yves Mourousy. On en parlera tout à l'heure, évidemment, très largement, avec les grandes voix Charles Villeneuve et Gérard Carrérou qui l'ont accompagné dans ses grandes années à TF1. Le Tour de France, maintenant, et c'est un Allemand qui a été le plus fort pour gravir les sommets des Alpes aujourd'hui entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans, Axel May.
Oui, il s'appelle Lennard Kemna, à 24 ans. C'est son premier succès sur le Tour de France et seulement son deuxième succès professionnel après une victoire sur le Dauphiné il y a quelques semaines. Ce coéquipier de la star Peter Sagan a faussé compagnie à ses derniers camarades d'échappée dans la principale difficulté de la journée, à 20 km de l'arrivée. Et Kemna a franchi en solitaire la ligne d'arrivée ici à Villard-de-Lans devant un public clairsemé. Le groupe Maillot Jaune, qui avait accordé un bon de sortie à l'échappée du jour, est arrivé avec près de 17 minutes de retard et encore 10 minutes plus tard, le groupe Maillot Vert, vous savez, c'est le groupe des sprinteurs dans lequel figurait, devinez qui, Egan Bernal, le Colombien, vainqueur sortant du Tour de France, qui avait déjà tout perdu le week-end dernier, a encore lâché du temps. Il est désormais 16e au classement général. Et à noter, pour terminer, que côté français, Benoît Cosnefroy conserve in extremis son maillot à pois devant un autre tricolore, Pierre Roland.
Merci beaucoup Axel May, et demain l'étape ira de Grenoble à Méribel. Merci Axel qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés de Marguerite Lefebvre.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci Carole, et à tout à l'heure 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le grand journal de l'info. La tendance météo avec Anissa Haddadi qui nous a rejoint. Anissa, vous nous annoncez demain qu'une journée sera ensoleillée mais avec un peu de nuages quand même, hein, c'est
en
ça.
En début de journée, ouais, surtout Julien, et autour, au bord de la
c'est
mer.
C'est marrant parce qu'il m'avait semblé que vous disiez l'inverse hier.
Non, ah bon, ce sont des entrées maritimes, des petits nuages, vous savez, d'été.
Dans Robson, on aime bien utiliser la boîte à archives, hein. Faites attention à ce que vous dites.
Il va y avoir du replay. Oh, oui. Non, vraiment, ce sont des entrées maritimes qui vont très vite se dissiper, je vous rassure, et le soleil sera de nouveau bien présent demain. En tout cas, là, ce sur quoi je m'engage, c'est qu'il va faire beau jusqu'à vendredi. Ça, je vous l'ai
ça,
dit,
c'est noté.
Et je m'y engage.
C'est dit et redit, hein.
Après vendredi, par contre, je ne réponds plus de rien. Dans l'après-midi, sur les reliefs de Corse, des Alpes, du Massif central, des Vosges et du Jura, là, sur toutes ces régions montagneuses, le ciel sera beaucoup plus couvert avec des averses orageuses. Les températures, elles sont en légère baisse sur la moitié nord, avec 22 degrés à Dunkerque, 25 à Brest. On est toujours au-dessus des normales de saison. 26 à Caen, 27 à Lille, 28 à La Rochelle. Et plus au sud, le vent d'Est fait repartir les températures à la hausse. Nous n'atteignons pas les records de ce début de semaine, mais il va faire chaud. 31 à Marseille et Clermont-Ferrand, 32 pour Paris, 33 à Avignon et Limoges, 34 pour Carcassonne et Lyon. Et la maximale est prévue dans le sud-ouest demain avec 35 degrés à Mont-de-Marsan.
35 degrés pour un 16 septembre, c'est assez incroyable.
C'est trop chaud.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h18, comment éviter le crash du secteur aérien. Des milliers d'emplois, vous le savez, sont en jeu. Bonsoir Alexandre de Juniac.
Bonsoir.
Êtes président de l'Association internationale du transport aérien, ancien patron, chacun le sait, d'Air France KLM. Justement, ce sera ma première question. Est-ce que l'avenir du groupe, Alexandre de Juniac, est en jeu et menacé? Plus de 2,5 milliards d'euros ont été perdus en 3 mois. Hier, le gouvernement néerlandais a affirmé que la survie de l'Alliance n'est pas automatique. Pour parler tout à fait clair, y a-t-il un risque de faillite d'Air France KLM?
Alors, en général, je ne commande pas Air France KLM ni la situation d'aucun membre individuellement.
Mais c'est un groupe que vous connaissez bien.
C'est un groupe que je connais bien. Simplement, comme beaucoup de compagnies, la situation des compagnies aériennes est très, très, très difficile. C'est simple. Vous savez, il y a des coûts à assumer, ce qui est normal pour toute entreprise. Il n'y a plus de revenus en face, ou beaucoup moins. Et donc, les compagnies aériennes sont dans une situation absolument dramatique. Alors, une partie d'entre elles a bénéficié du soutien des gouvernements, et notamment Air France KLM, ce qui a est d'un soutien massif, et d'ailleurs, nous en sommes extrêmement reconnaissants envers les gouvernements qui sont intervenus massivement. Et ça a permis de passer la première phase de cette crise, les 6 premiers mois de la crise. Mais si elle continue au rythme où elle est, c'est-à-dire d'être extrêmement grave, nous allons probablement demander au gouvernement d'étendre leur soutien.
Alors, Alexandre Juniac, rappelons les chiffres qui sont tout à fait saisissants. La chute du trafic en 2020 dépassera, selon les estimations, 60%. On annonce à l'instant, c'est une dépêche qui vient de me parvenir, que l'ONU annonce 460 milliards de dollars de pertes. 460 milliards de dollars de pertes pour le seul premier semestre, pour l'ensemble du tourisme mondial. Alors, j'entends que vous ne voulez pas vous positionner sur une compagnie en particulier, mais y aura-t-il des faillites de grandes compagnies aériennes dans les prochains mois ?
Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des compagnies en très grande difficulté ou qui sont dans l'antichambre de la faillite, voire même qui sont en faillite. L'antichambre de la faillite, c'est qu'elles sont en posture de sauvegarde ou en chapitre 11 de la loi américaine. Il y en a déjà un certain nombre, près d'une trentaine de compagnies sont dans cette situation-là. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que si la crise ne dure pas aussi longtemps et avec cette gravité, et si les gouvernements continuent à nous aider, les grandes compagnies ou disons les compagnies les plus brillantes échapperont à la faillite.
Oui.
Alors, par ailleurs, ce que nous demandons, nous, c'est au gouvernement maintenant de lever les restrictions aux frontières. Parce qu'en réalité, on a mis en place toute une procédure pour faire redémarrer le trafic aérien. Vous avez vu qu'on impose un contrôle de température, le port du masque obligatoire. Et ça, c'est assez bien généralisé. Mais les gouvernements ont maintenu, d'ailleurs, dans un relatif désordre, il faut bien le dire, des mesures de restriction, principalement les mesures de quarantaine. Or, la mesure de quarantaine, il faut comprendre que c'est une dissuasion totale à toute forme de voyage.
Mais vous comprenez qu'il y a un enjeu sanitaire important quand même pour les gouvernements.
Bien sûr, mais c'est pour ça que nous disons au gouvernement, nous comprenons tout à fait que vous ayez le souci de protéger la population et notamment contre la réimportation du virus. Ça on le comprend, c'est absolument normal. Et donc ce que nous vous proposons, et on est en train de discuter ça dans le cadre de l'organisation de l'aviation civile internationale, avec la contribution des autorités sanitaires, c'est de mettre en place une procédure de test des passagers. Que les passagers soient systématiquement testés à l'aéroport de départ pour que le pays d'arrivée sache qu'il y a un risque absolument minimal, très 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 limité, que les passagers qui arrivent chez lui soient infectés par le virus. C'est ça qui est important.
Alexandre de Juniac, on estime à peu près à 300 000 le nombre d'emplois en France qui dépendent du secteur aérien, c'est ça, pour un chiffre d'affaires de 58 milliards d'euros.
Ça veut dire
que parmi ces emplois, beaucoup aujourd'hui sont menacés. Pardon, j'en reviens à ma question de départ, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent.
Il y a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés parce qu'ils dépendent directement ou indirectement du transport aérien. Et c'est aussi pour ça que nous nous battons. C'est pour les emplois qui dépendent de nous.
Oui.
Dans le monde entier, sachez que c'est 70 millions d'emplois qui dépendent directement ou indirectement du transport aérien.
On dit qu'un avion...
Et on pense qu'il y a 25 millions qui sont menacés dans le monde.
Voyez. 25 donc, millions
est, Oui, on est dans des chiffres inouïs.
Alexandre de Juniac, on dit qu'un avion doit être rempli à peu près à 80% pour être rentable. Quel est le taux de remplissage en ce moment des avions ?
Alors, c'est assez variable en fonction des régions du monde, mais si on prend le cas européen, les taux de remplissage ont été aux alentours de 70-80%. Ce qui a été, pour une reprise, c'était assez correct. Ce qui nous a beaucoup déçus, c'est qu'après la reprise de juin et de juillet, surtout, le trafic a atteint un plateau en août et puis est resté sur ce plateau et a plutôt tendance à décliner début septembre. Donc, la reprise ne s'est pas confirmée comme comme on l'aurait aimé. Et ça, c'est une des raisons essentielles, encore une fois, c'est la mise en place, le maintien ou la poursuite ou le développement des mesures de quarantaine.
Bien.
Qui sont une dissuasion absolue. Oui. Ça, c'est du bon sens. Hein. Personne oui. n'a envie de voyager pour aller s'enfermer 15 jours dans un hôtel s'il a pris 15 jours de vacances.
Oui. Les niveaux de trafic aérien, Alexandre de Juniac, de 2019, c'est-à-dire avant la crise du Covid,
oui.
ne seront pas atteints avant 2024, disent les experts, oui. voire 2027, affirme le PDG d'Aéroports de Paris. Vous partagez ces prévisions ?
Ah ben, nos estimations, c'est 2024.
Hein.
C'est qu'on devrait retrouver les niveaux de 2019 en fin 2023,
Mais
début 2024.
Vous pensez vraiment que le trafic aérien reprendra comme avant, l'air de rien ? Vous ne pensez pas que cette crise va laisser des traces ? Et puis la conscience écologique quand même, qui veut que chacun peut-être voyage moins, ou en tout cas moins souvent et moins loin ?
Que la crise laisse des traces, je crois qu'il n'y a aucun doute. Ce qui me rend optimiste pour la reprise du trafic, c'est par exemple ce qui se passe en Chine. En Chine, sur le marché domestique, les restrictions ont été levées et tout le monde peut voyager. Et bien, les chiffres du trafic du marché domestique en Chine sont à 90% de ceux de 2019, aujourd'hui. Donc ça prouve que l'appétit pour le voyage il est encore là. Donc, alors après... Oui. On peut imaginer qu'il y a des motifs de voyage qui changent, que les gens voyagent peut-être un petit peu moins pour affaires, mais tout autant, voire un peu plus pour des raisons personnelles. Mais je crois que l'appétit est là.
Est-ce qu'il faut revenir aussi un peu plus de raisons ? Je pense par exemple au prix des billets des low cost. J'ai vu que l'Autriche vient d'interdire les billets d'avion à moins de 40 euros. J'ai vu que la ministre Elisabeth Borne a d'ailleurs salué cette décision en disant « c'est assez choquant, dit-elle, de faire croire qu'un Paris-Marrakech ou un Paris-Prague, ça coûte seulement 15 euros parce que c'est parfois les tarifs qui sont affichés par ces compagnies à bas coût ». Est-ce que vous êtes d'accord pour revenir à des ratios de tarifs pour les billets aériens qui correspondent à une forme de réalité ?
D'abord, je crois qu'il n'y a rien de plus désastreux que de réguler les prix. C'est un retour 50 ans en arrière à une économie administrée qu'on avait quand même oubliée.
Hein. Oui.
D'autre part, je voudrais quand même insister sur le fait que le prix bas des billets a permis à une immense partie de la population qui n'avait pas accès au transport aérien de voyager. C'est quand même un formidable progrès quelque
oui.
part. Ça permet à tout le monde de se dire je peux prendre l'avion. C'est une liberté fondamentale, vous savez, quelque part.
C'est la raison pour laquelle les compagnies low cost aujourd'hui, dans cette crise, s'en sortent un peu mieux que les compagnies traditionnelles. C'est parce qu'elles ont des gros volumes et des coûts bas.
Alors elles s'en sortent un peu mieux pour les raisons que vous mentionnez, plus le fait qu'en général elles sont sur un trafic continental qui a plutôt été réouvert, alors que le trafic international intercontinental est encore complètement fermé. Or c'était une des sources de revenus et de profits relativement importantes pour les compagnies traditionnelles qui avaient à la fois du court et du long courrier.
Bien. Donc merci ça, Alexandre de Juniac, merci d'avoir été ce soir en direct dans Europe Soir.
Merci beaucoup.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, la suite de notre programme de 2h, Europe Soir, le rappel des titres et le débat des grandes voix. Madame, monsieur, bonjour. Jean-Pierre Pernaut annonce prendre le large. C'est une page qui se tourne au trésor de TF1. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec vous, Carole Ferry.
Des nouvelles de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République hospitalisé hier à Paris va mieux. Âgé de 94 ans, il souffre d'une légère infection pulmonaire, mais pas du coronavirus. L'institutrice jugée pour avoir donné une crêpe à un élève allergique au lait a été condamnée cet après-midi à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal de Villefranche-sur-Saône. L'enfant était décédé. Des regrets, j'en ai tous les jours, je me sens tellement coupable, a-t-elle déclaré à la barre. La mairie de Paris mise en examen après l'explosion de la rue de la Trévise en janvier 2019. Même chose pour le syndic de l'immeuble. Pour homicide et blessures involontaires, cette explosion gaz avait fait 4 morts et plus de 60 blessés. Une bonne nouvelle pour la sécurité routière. Le nombre de morts sur la route a baissé de 19% en août dernier par rapport à la même période l'an dernier. Cela concerne les accidents de voitures et de motos. Nombre de morts en hausse en revanche pour les vélos et les piétons. La nouvelle vie d'Édouard Philippe, l'ancien ministre désormais maire du Havre, va également être proposé comme administrateur indépendant d'Atos, l'entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies. Enfin, les fidèles du journal de 13h de TF1 vont devoir changer leurs habitudes. À 70 ans, Jean-Pierre Pernaut annonce qu'il quitte son poste. Il avait succédé à Yves Mourouzi, c'était en 1988.
Et on va en parler dans quelques secondes avec les grandes voix qui sont entrées en studio à mes côtés. La météo avec vous, Anissa. Encore de la chaleur demain au programme, c'est une bonne nouvelle.
Une chaleur exceptionnelle et qui n'est pas normale pour la saison. Je vous rappelle que nous sommes 10 degrés au-dessus
au-dessus des moyennes de saison. Alors demain, c'est dans le sud-ouest qu'il va faire le plus chaud, jusqu'à 35 degrés à Mont-de-Marsan, 32 degrés, ça baisse un petit peu dans la capitale à Paris, 29 pour Aurillac, 27 à Lille. Il fait bien meilleur du côté de la Bretagne avec 23 à 27 degrés. Sur le Roussillon et la Bretagne, la journée va débuter avec un temps brumeux, des entrées maritimes qui se dissipent et l'après-midi, c'est le soleil qui domine.
Bien, merci Anissa.
À
tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Le 18-20, Julien Bugier.
18h31, le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir messieurs.
Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour. Et ce soir, on va donc commencer par un hommage. 32 ans passés dans la petite lucarne, il était l'une des dernières grandes stars de l'info. Et bien ce matin, l'inénarrable présentateur du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, a annoncé qu'il tirait sa révérence. Est-ce que vous vous y attendiez, messieurs?
Oui.
Charles Villeneuve?
Oui.
Oui?
Oui, je pense, j'ai parlé, dialogué
avec lui. Vous le connaissez bien l'un et l'autre,
on
évidemment.
On le connaît très très bien.
Vous l'avez côtoyé à TF1.
Gérard, le connaît parfaitement, moi aussi. Je m'y attendais. Je savais qu'il avait eu une affection grave il n'y a pas très longtemps et il en avait tiré la conclusion que peut-être qu'il fallait s'arrêter, en tout cas ne plus présenter le journal de 13h qu'il a conduit à des sommets.
Oui, on va en parler. Non, parce que c'est important de rappeler, Charles Villeneuve, ce que vous dites. Il arrête le journal de 13h à la fin de l'année, il a dit, donc à la fin de cette année. Mais il continuera à collaborer avec le groupe TF1 et incarner tout un tas d'émissions, y compris d'ailleurs sur le numérique. C'est assez amusant qu'à 70 ans...
Mais non, mais il a eu, il faut le reconnaître, quelque chose de spécifique à Pernaut, c'est qu'il a eu l'audace de jouer la carte de la proximité il y a 32 ans, à un moment où les journaux télévisés étaient aux antipodes, si vous voulez, de cette proximité. Oui. Pernaut a convaincu Étienne Moujotte, c'était Yves Morusi qui détenait évidemment le journal de 13h, et qu'il fallait illustrer l'actualité par des histoires concrètes, des reportages. Et un exemple, le gouvernement avait annoncé, à l'époque c'était son premier journal télévisé, l'augmentation du minimum vieillesse de 0,5%, et le premier réflexe, c'est d'aller faire évidemment l'interview du ministre compétent, ce qu'il faut faire d'ailleurs, sans doute. Mais lui, Pernaut, a préféré interroger des personnes âgées dans une maison de retraite pour qu'elles lui disent ce que cela représentait pour elles, 2 ou 3 euros de plus par mois. Et il s'adressait, si vous voulez, aux gens concernés qui vivent les problèmes plutôt qu'à leurs représentants.
Oui. Et c'est vrai que sous couvert d'un journal très territorial, c'est un peu Jean Castex avant l'heure d'ailleurs, Jean-Pierre Pernaut.
C'est le journal des territoires.
C'était un journal, et c'est d'ailleurs toujours un journal, on en parlera tout à l'heure, très politique aussi. Mais je voudrais simplement d'abord vous faire écouter ces quelques mots que Jean-Pierre Pernaut a délivrés à ses fidèles téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Il l'a dit tout à l'heure ceci.
J'ai décidé de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Je sais que ma décision d'arrêter le 13h va surprendre pas mal d'entre vous. Je l'ai très mûrement réfléchi. Le 13h et moi, c'est une aventure vraiment extraordinaire grâce à vous, grâce à votre confiance depuis 33 ans. Donc c'est un virage que je vais prendre à la fin de l'année, je l'espère avec vous aussi. Mais d'ici là, attention, le 13h continue. Alors je vous retrouve à 13h aujourd'hui ou demain, quand vous voulez.
Voilà, c'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un phénomène, Jean-Pierre Pernaut, Gérard Carrérou. Son directeur, qui s'appelle Thierry Tuillier, disait ce matin qu'il a façonné l'ADN du 13h de TF1 avec, Charles le rappelait, avec cette approche de proximité qui fait sa singularité.
Oui, avant toute chose, je dirais que je crois qu'il a eu, raison parce qu'il a eu la sagesse de comprendre qu'après 33 ans de course en tête, jamais rattrapé, toujours premier et avec des marges extraordinaires.
6 millions de téléspectateurs.
Il a eu la sagesse donc de dire je vais me retirer du journal, je continuerai à faire des émissions sur TF1.
43% de part de marché. J'en sais quelque chose parce que je travaille aussi dans la maison d'en face.
Moi j'ai eu la charge puisque j'étais en 88, c'est l'année où je suis entré à TF1. J'ai été le directeur de la rédaction en 88, au moment où on est passé...
Et c'est le moment où Pernaut prend la tête du 13h.
Morusi est parti, si j'ose dire, vers le ciel. Et Pernaud a été choisi par l'état-major, Patrick Lelay, Étienne Moujotte.
On n'oublie pas Marie-Laure Augry, au passage, qui était avec Mourouzi à la présentation du journal.
Non, bien sûr, mais c'est, vous savez que c'est quand même le présentateur qui fait le journal. Et là, effectivement, Pernaud avait décidé de faire ce qu'on vient d'esquisser, c'est-à-dire ce journal avec l'affineur de fromage de l'Aveyron, de trifouiller les clayettes, etc. Et avec l'idée principale, c'était changer par rapport aux journaux traditionnels. N'oubliez pas que TF1 venait d'être privatisé. Il voulait faire différent du service public.
Oui.
Et comment faire plus différent du service public qu'en jouant l'état-major de province, c'est-à-dire tous les correspondants qu'il avait monté un réseau de correspondants de grands journaux de province qui donnaient tous les jours, et c'est eux qui allaient faire les reportages sur place. Donc Pernaud a articulé son journal sur la proximité avec les... Alors autant vous dire que les journalistes, c'est ça que j'ai eu à gérer, moi, oui. Les journalistes parisiens de TF1 à l'époque faisaient la gueule,
mais...
parce qu'ils voulaient, eux, un journal traditionnel où on commence, comme tu dis, par le chiffre du chômage, et puis après on enchaîne sur la réunion des indépendants à l'Assemblée nationale. Et lui, il a bouleversé tout ça. Il ne faisait plus
Jacques
ça.
Jacques Arrérou, il vous l'a imposé, ce choix de,
non,
de traitement
non,
territorial.
Il n'a pas imposé, on n'imposait pas. Simplement, il a proposé.
Il a proposé.
Plutôt que de faire un Mourouzi bis, il a proposé de faire ce journal en jouant sur la proximité le réseau des correspondants.
Oui.
Mais ça a marché, puisque vous le rappeliez, plus de
40% de part de marché. Ça veut dire qu'une personne quasiment sur deux qui regarde la télévision
jours,
à 13h...
Certains jours, il dépassait 50%.
Ouais. Regarde le journal de Jean-Pierre Pernaud, 6 millions de téléspectateurs. Rappelons qu'il est entré à TF1 au moment, le jour de la création, mais je ne savais pas, le jour de la création de la chaîne, le 6 janvier 1975, et qu'il prend la présentation du JT en 88. Oui, c'était il y a 32 ou 33 ans.
Ça dépend. Ce que vient de très bien expliquer Gérard Carrérou, c'est que les journalistes de Pernaud ont franchi le périphérique. C'était plus le journal du Parlement, du Palais Bourbon, du gouvernement, etc. C'était vraiment le journal de proximité. Il a montré la vie des petites villes, la vie des villages, et il a surtout aider les commerçants, les petites entreprises à trouver, si vous voulez, des repreneurs.
Oui, il SOS Village.
Il a mis en exergue la richesse du patrimoine national.
Bien. Moi, j'avais 8 ans quand il a pris le journal de TF1, donc j'ai grandi aussi avec Jean-Pierre Pernaud derrière la lucarne.
Vous étiez un petit garçon, mais ça a posé des problèmes parce que déjà,
on en parle juste après la pause, parce qu'il faut marquer une pause.
Populisme à l'époque,
18h39,
déjà.
On se retrouve dans quelques secondes. On continue encore quelques instants de parler de Jean-Pierre Pernaud avec Les Grandes Voix, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, c'est la suite du débat des Grandes Voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et on parle encore quelques instants d'un homme qu'ils ont tous les deux bien connu et accompagné dans sa carrière. Longue, 33 ans passés dans la petite lucarne. On parle ce soir de Jean-Pierre Pernaud qui a annoncé qu'il allait quitter d'ici la fin de l'année le 13h de TF1.
La gastronomie en Charente. La cagouille, c'est l'escargot. Les cuillères de mariage.
C'est la saison du brame des cerfs dans les forêts.
Le travail de l'osier, tradition millénaire en Indre-et-Loire. Les fameuses fêtes de l'ours. C'est une vieille tradition pour chasser l'hiver. C'est la grande saison des papillotes, bien sûr, avec les petites blagues dedans.
Voilà, c'est ça Jean-Pierre Pernaud. C'est ce qu'on disait juste avant la coupure publicitaire.
Il a créé SOS Village. Il a créé SOS Village. Et à partir de là, il a montré tout ce qu'était en France le patrimoine des régions. Et c'est un garçon, les journalistes de Pernaud, je le disais juste quelques minutes avant que vous ne passiez la pub, ont franchi le périphérique et il a insisté. C'est lui qui a montré comment les villages perdaient leur dernier commerce, leur dernier médecin, etc.
Mais c'est vrai que derrière cette France des traditions, il y a aussi beaucoup de messages politiques dans ce journal, à travers des clins d'œil. La semaine dernière encore, il a salué par exemple l'ouverture de la chasse. Dans le contexte actuel, c'est un clin d'œil qu'il envoie à ses téléspectateurs avec un sujet consacré qui a d'ailleurs été repris, qui a d'ailleurs été repris par les chasseurs qui l'ont remercié sur leur site internet et qui ont relayé ce clin d'œil de Jean-Pierre Pernaud.
Mais c'est pour ça qu'il avait cette image. Dès le début, il y avait, comme dans toutes les rédactions de télévision, il y avait un petit noyau gaucho-gauchiste qui, évidemment, dès le début, dès 88, allait se plaindre auprès de Michèle Cotta, qui était directrice de l'information. Moi, j'étais le numéro 2, donc elle était le numéro 1, en disant « c'est pas possible, Pernod, c'est du populisme, c'est la droite, Pernod, etc. » La direction de TF1 à l'époque a tenu bon, et tenu bon parce qu'on a eu ces sondages exceptionnels. Il est devenu l'homme de la province. Face, alors en fait, TF1 a joué gagnant.
Mais un journal, on peut le dire, c'est pas un gros mot, Gérard, un journal plutôt conservateur qui joue sur les traditions françaises.
Populaire. Un journal populaire qui s'adressait aux gens. Vous savez à qui il s'adressait de tout d'abord, et c'est pour ça que les Parisiens ne l'ont pas compris. Tous les gens de province, il y en a 90%, ils rentrent déjeuner chez eux.
Bien sûr.
Ils prennent un coup de bagnole, un quart d'heure après, ils sont chez eux.
Et puis les retraités.
Et ils regardent, voilà, et ils regardent le Pernod.
Non, mais il faut quand même rappeler qu'il a fait du 13h de TF1 l'un des journaux les plus regardés d'Europe.
Bien sûr. Est-ce que ça peut handicaper, on finira avec cette question, est-ce que ça peut handicaper TF1, son départ ?
Non, je crois qu'il y a une manière de faire, un know-how, comme on dit maintenant, si vous voulez, une façon de présenter, une façon de provoquer des reportages, parce que c'est ça, 60% du journal de 13h, c'est 60% oui. de reportages.
C'est qui le meilleur remplaçant pour Jean-Pierre Pernod ?
Oh, il y en a, parce que c'est surtout c'est le titulaire.
Non, franchement, je ne citerai personne parce que...
Mais le titulaire qui le remplace l'été est très convenable.
Oui, il a sûrement un des remplaçants. Oui. Alors, le gros peut-être...
Dit que les remplaçants ne viennent jamais titulaires. J'en sais quelque chose, là aussi.
il est remplaçant depuis trop longtemps, peut-être, le gros. Mais en tout cas, c'est ce qui prévaudra, et je suis d'accord avec Charles là-dessus, ce qui prévaudra, c'est la ligne Pernod. Oui. La ligne Pernod, c'est-à-dire qu'on ne fera pas un journal qui reviendra vers le parisianisme, on gardera le journal de la France profonde.
Julien Arnault, Denis Brognard.
Oui, ça peut être des têtes.
Arnault est très bon.
Oui, ça peut être
très bon,
têtes,
absolument.
Bien, on aura la réponse, je pense, dans quelques semaines.
Il a mes faveurs.
Il a vos faveurs.
Oui.
Bien. S'il nous entend.
Ça ira très vite. Dans le groupe TF1, il a annoncé une date de départ. Il y aura
normalement, le 1er janvier prochain, on aura la réponse. Oui. Bien. Le débat de grande voix, on va continuer avec cette étude choc publiée par l'Institut Ipsos Soprasteria. Il s'agit d'une enquête annuelle sur les fractures françaises. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? Eh bien, que les Français ont un besoin d'autorité, avec notamment des inquiétudes grandissantes concernant la sécurité du quotidien. Et ça rejoint des discussions qu'on a régulièrement, ici même, avec vous. 88% des personnes interrogées estiment que l'autorité est une valeur qui est trop souvent critiquée. 82% des Français disent que la France a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. Ce qui est frappant, c'est que ce besoin d'autorité traverse toute la société. Il est quasiment égal dans les différentes strates de la société et les différentes sensibilités politiques. Gérard.
Oui, c'est frappant de voir qu'effectivement le chiffre est très élevé. 82% demandent un vrai chef.
Oui.
Alors, on peut traduire ça quand même par une
Alors,
forme...
Alors, c'est pas tout à fait inédit. Vous avez vu qu'en 2013, ils étaient 87% les Français oui. à dire la même chose.
Oui, mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que ça se répercute dans toutes les classes. Dans tous les segments de la société, ce pays, aujourd'hui, a une exaspération. Il veut de l'autorité.
Oui.
Il veut de l'autorité. Il en a marre de voir... Bon, ça s'est produit encore la nuit dernière à Saint-Ouen. Vous avez vu deux jeunes qui se sont entretués, enfin, ou qui ont été tués par d'autres. Tous les jours, on a ce genre de phénomène. Et on ne l'a pas seulement dans la région parisienne, dans la banlieue parisienne. Donc, et les gens veulent de l'autorité. Alors, c'est pour ça que c'est le même résultat à peu près qui dit qu'ils ne sont pas, ils voudraient un vrai chef. C'est à peu près le même nombre qui disait il y a quelques jours, l'ensauvagement, on partage cette idée d'ensauvagement.
Alors, dans quelques secondes, on parlera de deux choses pour poursuivre la discussion. D'abord, le livre de l'ancien chef d'état-major des armées, dont c'était le propos, hein, le général Pierre de Villiers, souvenez-vous.
Qu'est-ce qu'un chef ?
Eh bien, on posera la question dans un instant à Charles Villeneuve. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours en direct dans le studio d'Europe Soir avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, et on parle du rapport des Français avec l'autorité, avec cette étude choc publiée par l'Institut Ipsos Soprasteria qui révèle que 88% des personnes interrogées estiment que l'autorité est une valeur qui est trop souvent critiquée, et ils sont quasiment autant à dire que la France a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. Alors juste avant la pause, je vous poser la question, Charles Villeneuve, qu'est-ce qu'un vrai chef ? Le général Pierre de Villiers l'a conceptualisé d'une certaine manière dans un livre. C'est le chef d'état-major des armées qui a été viré, on peut dire ça comme ça, par le président Emmanuel Macron, et il en a écrit un livre remarqué, « Qu'est-ce qu'un chef ?» paru en novembre 2018 chez Fayard. Avec quelle valeur, quelle méthode, quel but commun devient-on un leader ?
Mais le jour de la rupture, vous savez, devant les armées, à la veille du 14 juillet, le président de la République s'était adressé au corps des officiers et des sous-officiers en leur disant « J'y étais, j'ai assisté à cette... » C'est un cocktail à la veille toujours du 14
oui,
juillet, du
défilé. C'était assez terrible. Hein.
Oui, et il avait dit « Je suis votre chef ». Alors, justement, je pense que de manière assez malicieuse, Pierre de Villiers a trouvé le titre à ce moment-là. Il n'avait peut-être pas l'inspiration, mais il a voulu dire et expliquer que le chef ne peut pas tout faire. C'est celui, je me souviens de sa phrase, quand on parlait, on discutait avec lui, il l'a écrit, qui encaisse l'inquiétude et suscite la confiance. Ce n'est pas seulement un problème français, c'est une maladie occidentale. C'est ce qu'il avait défini. Et on peut toujours dire « je suis votre chef », il faut savoir entraîner, non pas tirer à soi, mais se tourner vers les autres.
Oui. Et il reprend, Charles, à son compte la phrase de Sénèque « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Autrement dit, pour être un
fixer
bon chef,
un cap.
Il faut fixer un cap et avoir
absolument
une vision. D'où ma question. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un bon chef, Gérard Carreau ?
D'abord, quelque part, le fait de vouloir un chef signifie que celui qui est le chef, puisqu'il a été élu tout à fait légalement, il a la légitimité du chef. Il semblerait que quand on demande un chef, quand les grenouilles demandent un chef, c'est qu'elles considèrent qu'il n'y a pas de chef. Alors donc, il y a un problème d'autorité. C'est clair. Alors ça ne sera pas un militaire, c'est impossible sous notre République. Nous ne susciterons pas ni un De Villiers, ni un nouveau Napoléon, ni un Bonaparte quelconque. Mais ça sera quelqu'un, sans doute, un jour ou l'autre. Ça sera peut-être à l'occasion de la prochaine élection présidentielle.
Oui.
Ou plus tard, mais quelqu'un qui donne cette impression. Parce qu'en France, on a eu l'impression d'être commandé, d'être dirigé, d'avoir un chef qui avait une vision avec le général de Gaulle.
Oui.
Et puis on l'a eu assez fortement après avec François Mitterrand,
oui,
qui savait où il voulait aller. Et puis on l'a eu aussi avec
Mais est-ce que être un
Chirac
bon chef, c'est simplement avoir une posture, une prestance, ou c'est aussi avoir une vision? Vous voyez, Pompidou, par exemple, Pompidou a été un grand président.
Oui.
Mais il n'avait pas cette stature que pouvait avoir Charles de Gaulle.
Julien, attendez, je veux juste dire un mot.
Oui.
La vision pour un chef, c'est de ne pas laisser s'imposer la chienlit dans un pays. Ça, de Gaulle l'avait.
Oui.
À un moment donné, quand le désordre, je pense qu'on est dans une situation de désordre et d'exaspération sur le désordre. Je pense qu'à un moment donné, cette revendication du chef, c'est parce que ça veut dire on ne veut plus de ce désordre. Donc, il faut trouver l'homme et apparemment, le président de la République actuelle ne répond pas à cette envie de...
Pas tout à
alors,
fait. Il a tenté de le faire quand même, il y a quelques jours au Panthéon, quand il a précisé sa vision de la République à l'occasion des 150 ans de la proclamation de la République par Léon Gambetta.
La République, c'est une transmission. Et la République est une volonté. Jamais achevée, toujours à reconquérir. La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste.
Voilà, alors encore une fois, chacun jugera
c'est un très
ce
bon
que
exemple
doit être un chef, mais en tout cas, le président de la République rappelle aussi les fondamentaux de ce que doit être un chef de République.
C'est un très bon exemple. Parce que là, il a fixé, en quelque sorte, le propos et la stratégie. Mais ce qu'on lui demande, c'est d'aller plus loin. Il manque souvent, dans les discours du président de la République, si vous voulez, la tactique, c'est-à-dire l'action. Quid, comment on fait, le comment. Et ça, il ne l'a pas dit. Bien sûr, il a parlé justement dans ce même discours dont vous avez prélevé un extrait, du séparatisme. Mais comment traite-t-on le séparatisme ? Très bien, comment éviter pour l'éviter et pour le réduire ?
Oui.
Il n'a pas donné le comment. Et c'est l'un des problèmes du chef de l'État, si vous voulez. Et c'est ce qu'on lui reproche. Et parce que sur le plan du travail, on demande toujours au chef de l'État d'être en quelque sorte un intellectuel du travail. Et ça, je pense que le président Macron l'a parfaitement.
Oui.
Mais on lui demande maintenant de dire comment il va faire. Quelle est l'action? Comment elle va se traduire?
Gérard Carreau.
Écoutez, les gens veulent des actes. Le discours était très bien, je l'ai même dit ici, j'ai trouvé que le discours sur la République et contre le séparatisme...
Les mots ne suffisent pas.
Mais maintenant, les gens veulent les actes. Ils sont saturés de discours où on leur promet effectivement la restauration de l'autorité. Ils veulent l'autorité, ils veulent la voir. La voir dans la rue, la voir près de chez eux. Ça se traduit, ça, on le voit effectivement tous les jours. Et effectivement, il y a des choses aussi simples que, par exemple, appliquer les peines qui sont données par les tribunaux. ne pas faire des remises de peine. Quand on condamne quelqu'un à perpétuité, le laisser à perpétuité, il faudra en passer par des actes. Oui. Je donne des exemples, oui, là. Oui. Il faut en passer par des actes de ce genre, sinon
je pense que ce qui a fortement déplu à l'opinion publique, c'est la pertinence des termes sur lesquels se sont bagarrés, en quelque sorte, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur.
Éric Dupond-Moretti sur l'ensauvagement.
Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé à ces deux ministres de s'occuper du réel.
Bien.
Et le réel, justement, il faut le définir aussi. La stratégie, c'est très bien, mais la tactique, c'est-à-dire le comment on fait, c'est au président de la République aussi
des
de
résultats.
Le définir.
Oui,
mais
résultats.
Pour l'instant, c'est pas des résultats, c'est... les deux se neutralisent.
Merci,
les deux ministres en question.
Voilà. Merci Charles Villeneuve. 18h56, on se retrouve dans quelques secondes pour le journal de 19h. Et juste après, on ouvre le Club des idées.